La bataille appartient au Seigneur. Ça fait du bien de savoir que le Seigneur bataille pour nous, mais il faut combattre à genoux pour qu'il bataille, pour que ce soit sa bataille à lui. Ça va ensemble. Il faut pas forcément attendre que Dieu bataille tout seul et que nous, on continue notre train de vie. La bataille appartient au Seigneur parce que nous combattons à genoux. Ça va un peu dans le sens de ce que j'aimerais vous dire ce matin. Il y a un verset terrible dans la Bible. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais il y en a un, pour moi, c'est un des plus terribles. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Nous allons continuer l'histoire de Ruth. Il y a 2 semaines, nous étions dans le premier chapitre. Malheureusement, il y a eu un problème technique qu'on n'a pas pu élucider et la prédication n'a pas pu être enregistrée. Alors je suis bien désolée pour ceux qui n'étaient pas là, mais je vous encourage à la maison à aller relire l'histoire de Ruth. Elle est courte et elle est tellement importante. Je me suis posé la question, pourquoi le livre de Ruth maintenant? Parce que ce livre de Ruth, c'est un petit bijou. C'est un livre, déjà au niveau littéraire, il est écrit d'une manière magnifique, mais c'est une histoire qui est remplie de bonté, d'humilité, de générosité, de restauration. Il n'y a pas un reproche dans ce livre. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux parler de Ruth maintenant quand on voit ce qui se passe dans l'actualité? Et je me suis dit, mais ce livre de Ruth, il se place dans juste dans la période des juges. Et la période des juges, c'est la période la plus troublée de toute l'histoire biblique. C'est un temps où il n'y a pas de roi, pas d'autorité spirituelle établie en Israël. Chacun fait ce qui lui semble bon. C'est-à-dire qu'on assiste à une décadence en spirale descendante, une décadence toujours plus grande, une décadence sociale, morale, spirituelle. Et c'est là-dedans que s'inscrit l'histoire de Ruth. C'est quand même incroyable. Et quand on regarde l'histoire des juges, eh bien, rien n'a changé. On en est en plein dedans. Chacun fait ce qui lui semble bon. Et si on regarde l'état de notre monde, ça ne donne rien de bon. Alors nous allons continuer l'histoire de Ruth. Nous allons continuer l'histoire de Ruth parce qu'au cœur de ce livre magnifique, sans reproche, il y a plusieurs messages qui sont tellement importants. Il y a 2 semaines, on a vu que Ruth est une Moabite, une étrangère, et qu'elle a tout quitté, ses parents, sa culture, son pays, ses faux dieux, pour s'attacher à Naomi, sa belle-mère, au peuple de sa belle-mère, et donc, par conséquent, au Dieu de sa belle-mère. Ruth a tout abandonné pour s'attacher au Seigneur. C'était un retour, ce qu'on a vu il y a 2 semaines. C'était une conversion, une repentance, un retour. Un retour de Moab à Bethléem. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite. Il s'agit de Naomi, de Ruth, qui sont toutes les deux veuves, qui sont à Bethléem et qui n'ont rien pour subsister, qui n'ont aucun droit, qui sont tout au bas de l'échelle au niveau de la société. Et c'est important qu'on prenne le principe qu'il y a dans le chapitre d'aujourd'hui, parce que sans ce principe-là, avec tout ce qui se passe, nous ne tiendrons pas. Et même s'il n'y avait pas ce conflit en Israël, même s'il n'y avait pas tout ça, nous ne tiendrions pas, parce que ce sont des principes spirituels. Mais plus les douleurs de l'enfantement sont intenses, on voit bien qu'elles s'intensifient et qu'elles se rapprochent, plus nous devons être ancrés dans toute la parole de Dieu et pas seulement les prophéties. Les prophéties, elles nous enseignent pour nous dire quelle heure il est. Il est -1, peut-être -5, peut-être -10. Mais Jésus est la porte. Il est grand temps qu'on mette nos vies en ordre. Il y a un verset terrible dans la parole de Dieu. Pour moi, c'est presque le plus terrible. On le trouve dans 1 Pierre 5, à partir du verset 5, dans le petit passage de 5 à 10. On le trouve aussi dans Jacques. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour moi, c'est un des versets les plus terribles. Parce que si je suis orgueilleuse, Dieu me résiste. Si je suis dans l'orgueil, je n'ai pas accès à la révélation de Dieu. Si je suis dans l'orgueil et que je n'ai pas accès à la révélation de Dieu, alors je ne peux pas me repentir. Si je ne peux pas me repentir, je n'ai pas le salut. Je n'ai pas la restauration de mon âme. Je n'ai pas le rafraîchissement de mon esprit. Je n'ai pas l'abondance des bénédictions que Dieu a préparées pour moi. Et le jour où Jésus reviendra, est-ce que je serai capable de reconnaître sa voix ? L'orgueil est la pire chose qui puisse nous arriver. La pire chose, quelles que soient les circonstances géopolitiques. Alors allons dans Ruth. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Tiens, tiens, tiens. Dans le premier chapitre, on apprend qu'il y a une famine à Bethléem, un lieu fertile où il ne devrait pas y avoir de famine. On comprend qu'il y a sûrement eu un péché collectif de la part du peuple. Et Elimelech prend sa famille et il se taille en Moab dans la terre ennemie, alors qu'il avait un riche parent. Un riche parent qui aurait peut-être pu l'aider. Est-ce par orgueil qu'il est parti ? Pour essayer de résoudre ses problèmes tout seul. On ne sait pas. Mais il en est mort, ses fils aussi. Et sa femme se retrouve veuve, ses belles-filles aussi. Ce riche parent, il est juste nommé là pour que nous soyons au courant que quelque part, il y a un riche parent qui a été un petit peu occulté. Mais Ruth, elle n'est pas au courant. Naomi, elle a même oublié. C'est pas elle qui dit ça en ce moment. C'est juste pour nous que l'auteur du livre met cette petite information. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz et qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous !» Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse !» Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Le glanage, une situation qui peut paraître bien loin de notre réalité. Mais le glanage, c'était une assurance sociale beaucoup plus performante, si elle était respectée, que nos assurances sociales actuelles. Le glanage, il s'agissait d'aller ramasser les épis qui avaient été négligés, oubliés par les moissonneurs. Le glanage, c'était un droit que les pauvres avaient pour subvenir à leurs propres besoins. C'est quelque chose qui se passait dans les peuples voisins d'Israël. Ce n'était pas seulement en Israël, mais la différence dans la loi de Moïse, c'est que, et on peut le lire dans Lévitique 23 par exemple, au verset 22, si vous voulez prendre des notes, Deutéronome 24, verset 19, c'est qu'il fallait pas seulement laisser les pauvres aller glaner, mais il fallait même laisser un coin du champ non moissonné. Et ça, ce but-là, c'était pour que les pauvres aient en suffisance quand ils vont glaner, les personnes qui n'ont pas de terre, mais c'était aussi pour que les riches n'amassent pas juste pour s'enrichir, mais qu'ils soient sensibilisés à la cause du plus fragile. Quand vous ferez la moisson, je suis dans Lévitique 23, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le glanage est un travail pénible parce que les épis sont tombés à terre et il faut ramasser un épi après l'autre. Il faut se baisser, bouger un peu, se baisser, bouger un peu, se baisser, bouger un peu toute la journée. Et en plus de ça, cette loi, elle est bonne, mais elle n'était pas toujours respectée. Et les moissonneurs n'étaient pas toujours gentils avec les pauvres, avec les glaneurs. Parfois, ils se faisaient houspiller. Mais dans la situation de Ruth, on se rend compte que les moissonneurs sont plutôt respectueux, mais ils sont élogieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, le responsable des moissonneurs, il fait l'éloge de Ruth par trois fois. Elle a dit « Permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes. » Depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Il est en train de dire « Mais elle est différente. » Et Boaz, il l'a remarqué, il l'a repéré parce qu'elle dégageait quelque chose de différent. Il y avait beaucoup de moissonneurs. Les femmes y étaient aussi. Plus tard, on voit dans le texte que Boaz avait des servantes. Mais il repère une de ces femmes qui dégage quelque chose. Il demande, mais à qui elle est? Dans le sens, mais elle appartient à quel clan? À quel père? À quel mari? À quel frère? C'est pas un regard de convoitise, pas du tout. Mais elle dégage de l'humilité. Ruth, elle n'est pas fataliste. Elle n'est pas dans l'apathie. Elle n'est pas en train d'attendre que la misère s'abatte sur elle encore plus que ce qui est déjà. Et elle n'attend pas non plus un coup de baguette magique. Ça devrait nous parler un petit peu. Ruth, elle est dans l'humilité et la soumission. Et en même temps, elle se met en marche. Elle connaît certainement cette loi. Elle se dit, c'est une chose que je peux faire, qui est à mon niveau. C'est peut-être pas très glorieux parce que je suis catégorisée chez les pauvres, mais je le suis. Alors je vais faire ce que je dois faire. Point final. Elle va pas se dire, c'est juste, c'est pas juste, c'est dur, c'est pas dur, j'ai pas envie, il pleut dehors. Normalement pas pendant la moisson. Mais elle y va. C'est tout, elle y va. Et elle est humble parce que si elle sait que c'est elle qui peut faire ça, si elle sait que c'est la solution, elle demande l'autorisation, la vie de sa belle-mère. Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ duquel je trouverai grâce. Elle se soumet à Naomi. Elle lui reconnaît une certaine autorité. Et Naomi lui dit « va ». Mais Naomi ne lui dit pas « où aller ?»« Va ». Et quand elle va vers le champ où elle sait qu'elle a le droit d'aller glaner, elle va trouver les moissonneurs et leur demande « Permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Ruth est dans l'humilité. Et ce qui m'a touchée dans ce passage, c'est que ce n'est pas seulement Ruth qui est humble, mais Boaz également. Boaz, c'est le riche parent. Il nous a dit qu'il est riche et puissant. Mais quand il arrive vers ses moissonneurs, il ne vient pas dire « Alors, comment vont les affaires ?» Et puis ceux-là, là-bas, ils ne pourraient pas travailler un petit peu plus vite ?« Allez, il faut faire du chiffre, il faut faire du chiffre, du profit. Allez, on va en enlever quelques-uns, ça fera des salaires en moins, vous travaillerez plus vite. » Ça aussi, ça devrait nous rappeler un peu quelque chose pour ceux qui sont ou qui ont été dans le monde du travail. Je crois que ça doit parler à plus d'un. Non, Boaz, il arrive et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en réfère à l'Éternel. Il dit aux moissonneurs que l'Éternel soit avec vous. Et ils répondent que l'Éternel te bénisse. La première chose que Boaz fait quand il arrive dans son champ, dans sa moisson, c'est qu'il reconnaît que tout vient de Dieu. La providence, la bataille vient de Dieu. La providence vient de Dieu. Tout ce qu'il a, sa puissance et ses richesses ne viennent pas de lui premièrement. Il a fait ce qu'il fallait faire à son niveau, mais tout vient de Dieu. Et c'est ce qu'il confesse quelque part. Et ces moissonneurs sont tellement touchés par l'éthique qu'il a, l'éthique du royaume de Dieu, que quelque part ils font pareil, ils sont respectueux avec Ruth. Il n'y a qu'à voir les éloges que fait le responsable. Boaz, on le comprend assez vite. Boaz, il préfigure le Seigneur. Cette histoire, elle a été écrite 1200 ans environ avant Jésus. Mais Boaz, c'est un type de Jésus, c'est-à-dire que c'est un personnage qui prophétiquement nous parle de traits de caractère de Jésus. Boaz, il est soumis au Père. Comme Jésus était soumis au Père, Boaz, il est soumis à Dieu. Mais il est puissant et il est riche. Il est puissant et il est riche. Et il amène le royaume de Dieu sur terre. L'humilité. L'humilité non seulement d'une personne nécessiteuse comme Ruth, mais l'humilité d'un homme riche et puissant, un homme influent. L'humilité. Dans un monde où nous croyons que tout nous est dû, ça devrait nous parler, ça devrait nous interpeller. On attend que Dieu fasse un miracle pour notre situation, sans que nous n'ayons rien à faire, parce que c'est difficile, parce qu'il faut sortir, parce qu'il faut faire des efforts, parce que ça peut faire mal, parce que ça peut être pénible. Mais Dieu n'agit jamais par un coup de baguette magique. Dieu est bon, il peut y arriver un miracle. Ça nous est déjà arrivé avec Ritz d'être béni et une fois de trouver, quand on en avait vraiment besoin, une enveloppe dans la boîte aux lettres avec un ou deux billets dedans. Mais il y a quelqu'un qui a dû sortir des billets de son porte-monnaie, les mettre dans l'enveloppe, décider de ne pas les utiliser, puis aller les mettre discrètement dans notre boîte aux lettres. Ce n'est pas Dieu dans le ciel qui a préparé une enveloppe, qui a créé deux billets, puis qui les a mis dans l'enveloppe, puis qui a fait en sorte qu'un ange aille mettre dans la boîte aux lettres. Moi, je pense que la personne qui l'a mis, c'est un ange, mais c'est un ange même qui est peut-être présent ici. Comprenez ce que je veux dire? Dieu utilise les circonstances, il favorise les circonstances, mais il utilise chacun de nous. Et si nous ne faisons pas la part que nous devons faire, c'est comme un puzzle où il manque des pièces. Il manque des maillons de la chaîne. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des assurances sociales. Elles nous coûtent toujours plus cher. Et c'est vrai que le système est perverti parce que ça devient trop compliqué pour ceux qui ont des revenus trop précaires, les assurances sociales, ça devient impossible. Et ça, c'est un problème. Mais quand il nous arrive un gros pépin, on sait qu'on sera aidé. Sans les assurances sociales, est-ce que j'aurais été traité à l'hôpital que j'en ai eu besoin? En tout cas, pas dans un autre pays. Je ne serai pas là pour vous parler de l'humilité. Avançons. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Je reprends. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, 1. Ne va pas glaner dans un autre champ. 2. Ne t'éloigne pas d'ici. 3. Et reste avec mes servantes. » Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Boaz donne un ordre, Mais ne va pas chercher des thérapies, des choses, des trucs, des machins, des philosophies. Ne va pas embrasser des arbres dans la nature pour essayer de te sentir mieux. Reste dans le champ du Seigneur. Mais ne va pas ailleurs. Reste ici, tu es au bon endroit. Et Boaz aménage les lieux pour que ce soit plus facile. Il ne dit pas à Ruth, arrête de travailler, je vais m'occuper de toi. Je suis riche et puissant, moi. Non. Mais il interdit à ce que Ruth soit touchée. Il fait en sorte qu'elle soit en sécurité. Il lui garantit la protection. Il la laisse faire sa part. Mais, quand tu auras soif, ne va pas puiser l'eau toi-même. Va boire celle que les serviteurs auront puisée. Quand on doit faire des efforts pour aller méditer la parole de Dieu, c'est normal que chacun d'entre nous, individuellement, tout seul, à la maison ou ailleurs, nous soyons plongés dans la parole de Dieu pour la méditer. Mais c'est nécessaire aussi d'aller s'abreuver à l'eau que d'autres ont puisée à notre place. Nous devons faire notre part et nous abreuver, nous nourrir de la part de ceux qui ont peut-être une, deux, trois, quatre, cinq, six longueurs d'avance sur nous. C'est nécessaire, mais il faut un équilibre. Mais nous devons être capables de méditer la parole individuellement pour la mémoriser. Il y a des gens qui n'ont pas le droit d'avoir des Bibles chez eux. Et quand ils se retrouvent tout seuls, ils ne peuvent plus aller boire à l'eau que les autres ont puisée. Il n'y a que la mémoire. Si on ne fait pas cet effort soi-même d'être plongé dans la parole de Dieu, ça va être difficile. Ruth est humble. Par deux fois, elle exprime sa reconnaissance. La première fois, elle tombe, elle se prosterne devant Boaz. Mais elle n'est pas en train de l'adorer. Elle lui dit merci. Elle est en train de réaliser et de confesser son origine. Elle sait qu'en tant qu'étrangère, elle n'a aucun droit. Et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère ?» Elle confesse son origine. Elle ne met pas en avant, elle ne met pas en valeur ce qu'elle fait. Elle n'est pas en train de dire « c'est vrai que je suis fatiguée parce que là je dois nourrir ma belle-mère qui est israélite, hein, si jamais, moi c'est pas mon cas, je dois travailler toute la journée pour qu'elle ait assez à manger parce qu'elle, elle est trop vieille, elle n'y arrive plus. Et puis en plus de ça, son mari il est mort parce qu'il aurait jamais dû partir d'ici d'ailleurs. » Non. Ruth ne met pas en valeur ce qu'elle fait. Elle confesse ce qu'elle est. Une étrangère. En quelque sorte, une moins que rien. Et la deuxième fois, quand elle remercie encore, « Tu m'as consolée, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Ça veut dire, je ne suis même pas l'une de tes servantes. Je suis encore moins. Elle confesse son statut social. Elle est aux antipodes de Boaz. Elle n'est rien. Une veuve, une femme, une étrangère. Rien. Elle confesse simplement qu'elle est consciente de qui elle est et qu'elle a besoin de la providence de Dieu. Elle ne le dit pas avec ces mots-là, mais c'est ce que ça signifie. Elle a fait ce qu'elle devait faire et Dieu est en train de se mettre en route. Mais elle le fait en étant consciente qu'elle ne mérite rien, mais tout est grâce. Et encore l'humilité de Boaz. Boaz qui commence à mettre les choses en place pour que Ruth soit protégée, pour que ses conditions de travail soient un peu améliorées, Boaz ne s'attribue pas le fait qu'il est en train de pourvoir à ses besoins, d'être un sujet de bénédiction et de grâce. Il attribue le tout à l'Éternel. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Il comprend, Boaz, qu'en quittant Moab, Ruth est venue se réfugier sous les ailes de l'Éternel, qu'en s'attachant à Naomi, qui fait partie du peuple hébreu, Ruth a voulu se greffer sur l'olivier franc. Nous sommes greffés sur l'olivier franc. Nous sommes concernés par ce qui est en train de se passer en Israël. Le salut vient des Juifs. Jésus était juif. Je ferme la parenthèse. Est-ce que nous sommes conscients de qui nous sommes ? Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Ça fait bizarre, mais si je dis vinaigrette, ce sera déjà un peu meilleur. C'était sûrement quelque chose de ce style-là. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Puis, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Il y a quelque chose dans l'humilité de Ruth qui me touche à ce niveau-là, c'est que Ruth, qui est tellement consciente de qui elle est dans une telle humilité que quand Boaz lui dit « Viens à ma table, viens manger avec les moissonneurs », elle dit pas « Non, non ». Mais elle y va. Elle s'installe. On lui donne à manger, elle dit pas « Non, non, mais je vais prendre juste un petit peu, je veux pas déranger ». Mais elle mange jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée et l'emporte le reste. Et je me suis dit, c'est un trait d'humilité. Parce qu'elle vient de confesser qui elle est. Elle en est consciente. Mais elle a tellement d'humilité que quand on lui offre quelque chose, elle le reçoit. Elle reçoit la grâce sans mérite, sans rien faire, sans payer, sans rien donner en retour. Parce que ce qu'elle glane, c'est pas pour Boaz et les moissonneurs. C'est pour elle et sa belle-mère. Elle bénéficie de la grâce et elle est tellement humble qu'elle réussit à la recevoir. Ça devrait nous parler. À chaque fois qu'on se prive des bénédictions de Dieu parce qu'on se dit « je ne suis pas assez digne », on est dans l'orgueil. On croit qu'on est dans l'humilité parce qu'on dit « je ne suis pas digne ». Mais en fait, si je suis vraiment consciente que je ne suis pas digne et que Dieu veut me bénir, je dois reconnaître que c'est par amour et grâce qu'il le fait et pas par mes mérites, pas par ce que je lui ai donné. Je peux jamais donner quelque chose qui soit à poids égal avec ce que Dieu fait. C'est impossible. Je dois juste dire mais merci. Je le prends parce que j'en ai besoin. Parce que par moi-même, je peux pas créer la réponse à mon besoin. Quant à Boaz, il est tellement respectueux de Ruth que il ne lui dit pas, parce qu'il sait très bien qui est Ruth. Il a entendu qu'elle était avec Naomi. Il sait très bien qui est Naomi. Il sait très bien qu'elle fait partie de son clan. On ne sait pas le degré de parenté. Il n'est pas tout proche dans la parenté. Mais il sait très bien. Mais il ne l'a pas dit à Ruth. Ruth, pour l'instant, elle n'en sait rien du tout. Elle ne sait pas chez qui elle est. Elle sait juste que c'est un homme de grâce, un homme de bien. Mais lui qui sait qui est Ruth, et Naomi, il aurait pu lui dire, écoute, ma fille, il est plus âgé que Ruth, hein, il est bien plus âgé. Il aurait pu lui dire, ma fille, t'as assez travaillé, je te donne un sac que mes moissonneurs ont préparé, ont déjà battu, pars avec ça, ce sera plus facile pour toi. Pas du tout. Il la laisse continuer à glaner. Pendant toute la période de la moisson, environ 7 semaines, il la laisse gagner son pain parce qu'il préserve sa dignité. Il la laisse gagner elle-même son pain pour pas être une assistée. Par contre, il fait en sorte que ce soit plus facile. Il dit à ses moissonneurs, en douce, enlevez des épis, mettez-les par terre, comme ça, elle pourra les prendre, elle en aura plus. Mais il faudra quand même qu'elle se baisse pour aller ramasser ses épis. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle battit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge, entre 13 et 22 litres. Ça représente plusieurs semaines de nourriture pour deux femmes. Ça représente à peu près le double de ce qu'un glaneur pouvait glaner par jour dans la moyenne. Donc c'est une quantité énorme. Alors si on fait le calcul, sachant que la moisson dure environ 7 semaines, elle a commencé au début de la moisson, avec ce même rythme, elle pouvait subvenir aux besoins de Naomi et d'elle-même pendant plus d'une année. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle battit ce qu'elle avait glané, il y eut environ 13-22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme pour les morts. » C'est-à-dire l'Éternel qui se montre miséricordieux pour nous et pour nos défunts maris. Elle est en train de se dire, « Ah, l'Éternel est en train de nous rejoindre dans notre situation, il va retourner quelque chose, il y a de l'espoir. » Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Elle demeurait avec sa belle-mère. Cette histoire de rester dans le champ de Boaz, quand Boaz part trois fois et lui dit « reste », ensuite Ruth dit à sa belle-mère « mais il m'a dit de rester » et qu'ensuite la belle-mère elle dit « mais c'est bien, reste avec ses servantes, ne va pas ailleurs » et qu'ensuite l'auteur il dit « elle demeurait et elle est restée dans ce champ » par sept fois, il y a une exhortation « ne va pas ailleurs que dans le champ de Boaz, ne va pas ailleurs que dans le champ du Seigneur ». Naomi est en train de se réveiller. C'est vrai, il y avait un proche parent riche et puissant, puis on l'a un peu occulté parce qu'on a voulu se débrouiller tout seul. Elle n'en a même pas parlé à Ruth. Mais maintenant que Ruth arrive avec un sac de grains qui va la nourrir pendant des semaines, puis qu'on est au début de la moisson, donc il y a de l'espoir pour la suite, il y a tout qui s'allume. Ah, mais il est toujours là. Ce riche parent, le Seigneur est toujours là, l'Éternel est bon, l'Éternel est en train de nous faire grâce. Cette fois, on ne va pas passer à côté. On s'est trompé une fois, on va continuer de revenir à lui. Ma fille ne va pas dans un autre champ. Béni de l'Éternel, celui qui s'est occupé de toi. L'Éternel est en train de transformer, de faire un revirement dans notre situation. Et elle dit, il est celui qui a le droit de rachat. En hébreu, la phrase, elle dit, il est l'un de ceux qui est notre goël. Le mot goël, vous l'avez peut-être entendu, c'est dans le jargon de patois de Canaan, des fois on sort ce mot. Le goël, c'est le rédempteur. Il est l'un de ceux qui est notre rédempteur. Le rédempteur, c'est celui qui a le droit de rachat. Et à l'époque de l'Ancien Testament, d'après la loi de Moïse, ce droit de rachat, il a plusieurs facettes. Il y avait par exemple le droit, en fait c'est un droit et un devoir. Des fois c'est clairement un devoir, des fois c'est clairement un droit, des fois on est un petit peu au milieu. Le droit de racheter les terres et les membres de sa famille en payant leurs dettes. Le droit de venger le meurtre d'un membre de sa famille. Le droit d'épouser la veuve de son frère laissé sans enfant. Racheter une terre familiale mise en vente. Veiller aux besoins des nécessités de sa famille. Ça, c'est un devoir. Et dans tout ce cadre-là, il y a l'année du jubilé, tous les 50 ans, où si une terre avait été vendue en dehors de la parenté, pour préserver qu'il n'y ait pas des gens qui s'enrichissent toujours plus et des pauvres toujours plus pauvres, ces terres devaient être restituées. Et tout ça, ça va dans tout ce qui concerne cette loi de rachat. Jésus nous a rachetés. Nous avons été vendus au diable. Jésus nous a rachetés, mais il ne nous a pas rachetés au diable. Il nous a rachetés à Dieu. La rançon, il l'a donnée à Dieu parce qu'il fallait assouvir la colère, la sainte et la juste colère de Dieu. Il ne faut juste pas se tromper. Mais Jésus nous a rachetés. Alors la suite, parce qu'il y a quand même du suspense, puis c'est quand même une belle histoire, eh bien, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Revenez dans 2 semaines. Naomi avait un riche parent. Nous avons un riche parent. Ne l'oublions pas, n'allons pas glaner dans d'autres champs que le champ de notre Seigneur. Le cœur de Ruth a été vu. Qu'est-ce qui a fait que tout s'est mis en marche dans cette histoire? C'est le cœur de Ruth. Déjà dans le premier chapitre, nous avons vu sa confession quand elle a dit à Naomi, « Je ne te laisserai pas ». Par 7 fois, elle a dit, « Je ne te laisserai pas. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Que Dieu me soit témoin contre moi si je me sépare de toi. » Par 7 fois, elle a confessé son attachement. Elle a tout abandonné pour s'attacher. Alors qu'elle aurait pu vivre quelque chose d'autre. Ruth nous montre le cœur que nous devons avoir, mais Boaz aussi. Nous ne sommes pas le Seigneur, mais nous reflétons le Seigneur. Nous sommes lumière, nous sommes image de Dieu. Boaz y montre la générosité. Nous sommes des Boaz quand nous nous occupons des pauvres, quand nous préparons des paquets de Noël pour les pays de l'Est. Quand nous donnons ce que nous pouvons donner, parfois même un peu plus, nous sommes des Boaz. Nous devons être des Ruth, nous devons être des Boaz. Faisons attention à ne pas être des Naomi à ce stade-là, qui oublie qu'il y avait un riche parent puissant. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui aimerait repartir d'un nouveau pied devant le Seigneur? Est-ce que quelqu'un aimerait changer son cœur? Quelqu'un aimerait revenir pleinement dans le champ du Seigneur? Est-ce que quelqu'un aimerait arrêter d'aller glaner à gauche et à droite? Est-ce que quelqu'un aimerait apprendre à marcher dans l'humilité et la conscience que la providence vient de Dieu? Est-ce que quelqu'un aimerait le manifester ce matin? Si vous avez envie de manifester quelque chose qui doit changer, que vous voulez changer, eh bien levez-vous. Levez-vous en signe, les uns devant les autres, et en signe devant Dieu. Moi, je retourne dans le champ du Seigneur, et je ne vais pas glaner ailleurs. Moi, je veux travailler mon cœur pour qu'il entre dans l'humilité. Je veux travailler mon cœur, je veux apprendre ce que c'est que d'être humble devant le Seigneur. Seigneur, entends nos cœurs maintenant. Élevez vos voix vers le Seigneur et dites-lui ce que vous voulez faire, dites-lui ce que vous voulez confesser, dites-lui qu'est-ce que vous devez changer. Seigneur, viens nous toucher, convainc nos cœurs, Seigneur, convainc nos cœurs, pardon pour l'orgueil. Je te demande, Saint-Esprit, de convainc nos cœurs là où nous nous sommes éloignés, attire-nous dans ton champ. Pardon d'être allé glaner à gauche et à droite. Pardon, Seigneur, d'avoir voulu répondre à nos besoins nous-mêmes. Pardon d'avoir cru que nous serions capables de répondre à nos besoins par nos propres forces. Pardon d'être allé chercher la solution dans des autres personnes, dans des autres humains qui sont autant faillibles que nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous et entends nos cœurs. Entends nos cœurs, Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons marcher dans l'humilité, nous voulons renoncer à l'orgueil. Montre-nous ce que ça signifie jour après jour. Brise les forteresses, brise notre suffisance, brise notre égocentrisme, brise l'orgueil, Seigneur, brise nos prétentions. Viens illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir que nous sommes étrangers et que nous sommes moins que des servantes et des serviteurs. Viens à notre secours et restaure-nous. Restaure ton Église. Restaure ton Église ici à la Chaux-de-Fonds. Restaure ton Église, Seigneur, ton Église universelle. Tu sais très bien quel est l'état de l'Église aujourd'hui. Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours, Seigneur, dans toutes les églises qui pratiquent l'abomination parce qu'ils t'ont rejeté, ils croient qu'ils te confessent. Mais ils ne te confessent plus. Viens au secours, Seigneur. Viens au secours, brise l'orgueil. Et merci pour ta grâce. Merci parce que tu es bon. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres ta bonté, ta générosité, ta sagesse, ta sainteté. Oh, gloire à ton nom puissant. Amen. Amen. Amen.